France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Eric Carrère, Youtou Diego Aclopez et Olivier Dehaye. Voici la cinquième et dernière émission de notre série consacrée au vent dans l'orchestre. Après la flûte, le hautbois, le cor anglais et la clarinette, nous écouterons aujourd'hui le saxophone. C'est donc plutôt une semaine entière sur les bois. Nous aurons l'occasion, j'imagine, de rendre hommage au cuivre dans une prochaine série d'émissions. Oui, les bois, car le saxophone, fabriqué en métal depuis son invention par Adolphe Sax, le saxophone fait malgré tout partie du pupitre des bois, tout comme la flûte traversière aujourd'hui en métal. Pour la petite histoire, il faut savoir que le cornet à bouquin fabriqué en bois fait partie des cuivres, pour compliquer un peu l'histoire. Bref, le sax est à l'honneur dans Arabesque et l'instrument emblématique du jazz sera entendu aujourd'hui dans un contexte orchestral, surtout des partitions du 19e et début 20e siècle. Adolphe Sax brevette son instrument en 1846 et aussitôt Berlioz s'en empare pour écrire un chant sacré, malheureusement disparu. Dans le premier solo de saxophone, on l'attribue à Jean-Jorde Kastner pour un obscur dernier roi de Juda. Mais la partition remarquable, la première partition remarquable avec un saxophone, c'est cette Hamlet de Ambroise Thomas de 1868, ici chantée par Thomas Hampson.
Thank you.
car sur le roi. Et si vous le voyez pâlir, dites-le moi.
Si on vous parle d'un grand solo de sax de 68, vous penserez peut-être à 1968 avec Jerry Mulligan ou Wayne Shorter. Eh bien non, c'est un grand solo de sax de 1868 qu'on entendait ici dans Hamlet d'Ambroise Thomas sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré, évidemment inspiré de Shakespeare. La voix de Thomas Sampson avec l'Orchestre Philharmonique de Londres est dirigée par Antonio de Almeida. Car oui, le saxophone a fait son apparition dans l'orchestre dans la seconde moitié du 19e siècle, certes apparu en 1846 pour le brevet, mais c'est vraiment la deuxième moitié du 19e qui donne sa chance à ce nouvel instrument, à cette nouvelle voix, comme on va l'entendre chez Léo Delibes, Jules Massenet, Paul Dukas, Vincent Dindy, Darius Milhaud, Zoltán Kodály, Serge Prokofiev, Moussorgski, Ravel ou encore Shostakovich. Voici un extrait de l'Arlésienne de Georges Bizet avec Fabrice Moretti au saxophone et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Yutaka Sado.
Thank you.
Un extrait de l'Arlésienne de Georges Bizet avec Fabrice Moretti. L'orchestre philharmonique de Radio France en 1997 était dirigé par Yutaka Sado. Nous avançons peu à peu dans l'histoire de la musique au son de ce saxophone avec cette fois-ci le saxophoniste de l'orchestre de l'Opéra de Paris, Daniel Defeuillet, qui est dirigé par Jean-Baptiste Marie. Dans cet extrait d'un ballet, de Léo Delibes, c'est Sylvia ou la nymphe de Diane, quel joli prénom, Seine et Barcarolle.
Thank you.
Un extrait du ballet Sylvia ou la nymphe de Diane de Léo Delibes avec l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Jean-Baptiste Marie. C'est justement à l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, qu'en 1876, cette partition a été créée. 1876, au moment où Richard Wagner présentait à Bayreuth son Ring, le anneau du Nibelung, pour lequel il avait demandé justement à monsieur Adolphe Sax de concevoir de nouveaux instruments à mi-chemin entre le cor et le tuba, les tubas wagnériens que Bruckner va également utiliser dans l'une de ses symphonies, car Adolphe Sax a composé a inventé bien des instruments comme le sax horn ou encore le saxo tromba. Mais bien sûr, son œuvre, je dirais, son ouvrage le plus célèbre, c'est ce saxophone à travers ses différentes tessitures, soprano, alto, ténor, baryton ou basse. Voici de nouveau l'Opéra de Paris un an après, en 1877. Il faut croire que les spectateurs avaient beaucoup apprécié ce solo de saxophone qu'on entend dans Sylvia de Léo Delibes, puisque Jules Massenet va l'utiliser dans Le Roi de Lahore, opéra dont l'inévitable ballet utilise un saxophone. C'est l'orchestre symphonique de Londres dirigé par Richard Bunning qu'on écoute dans cette œuvre de Jules Massenet.
Thank you.
Un extrait du troisième acte du Roi de Lahore de Jules Massenet, opéra de 1877, qui inclut non pas un, mais deux saxophones, un alto et un ténor. Ici, ceux de l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Richard Bunning.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Jules Massenet est le compositeur qui a le plus donné au saxophone dans le domaine de l'opéra, en témoigne Werther, qu'on écoutera dans 5 minutes environ, et en témoigne également Hérodiade en 1881, Hérodiade d'après l'un des trois contes de Flaubert, Hérodias, d'après cet épisode célèbre de la Bible mettant en scène Hérode et Salomé. 1881, c'est à la Monnaie de Bruxelles que cette partition est créée, avec un saxophone alto qui accompagne ici l'air d'Hérode au deuxième acte, Hérode chanté par Jean Borter, avec l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Pierre Dervaux.
Je pourrais me donner un tel rêve, je pourrais la revoir, contempler sa beauté. Divine volupté, à mes regards promise, espérance trop brève, qui vient bercer mon cœur et troubler ma raison. Oh, ne t'enfuis pas, douce illusion.
1957, le baryton Jean Borter était accompagné par un saxophone alto et par l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Pierre Dervaux dans cette ère du personnage de Hérode au deuxième acte de Hérodiade de Jules Massenet d'après Flaubert. Jules Massenet, voici le troisième exemple, comme je l'annonçais, de cette utilisation du saxophone au sein de l'opéra après Le Roi de Lahore et après Hérodiade. C'est Werther, d'après le roman épistolaire de Goethe, qui nous permet d'entendre la voix de Charlotte accompagnée d'un saxophone avec ici Sophie Koch et l'orchestre de l'opéra de Covent Garden dirigé par Antonio Pappano. Sophie Koch avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden dirigé par Antonio Pappano. C'était un extrait de Werther du troisième acte. Va, laisse couler mes larmes, chante Charlotte accompagnée par un saxophone avec Jules Massenet. Paul Dukas, lui aussi, le compositeur de L'apprenti sorcier, a été tenté par cet instrument fascinant qu'est le saxophone avec une partition méconnue sur un poème de Théophile Gautier. C'est L'Ondine et le pêcheur qu'Hervé Niquet a dirigé à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles pour accompagner la voix de Chantal Santon-Géféry. Voici cette rareté, L'Ondine et le pêcheur de Paul Dukas sur France Musique.
cher, suis-moi, je t'aime. Tu seras roi des eaux avec un diadème d'iris et de roseaux. Perçant sous l'odeur mate des jolies
Chantal Santon-Jefferi était accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles avec un lointain saxophone dirigé par Hervé Niquet dans cette partition de Paul Ducas, L'Ondine et le Pêcheur, sur un poème de Théophile Gautier que Ducas a composé à 19 ans en 1884, à l'époque où il était encore étudiant au Conservatoire de Paris, dans la classe d'un certain Claude Debussy, qui lui aussi va composer pour saxophone, une rhapsodie pour saxophone et orchestre de Debussy que je n'ai pas incluse dans cette programmation, tout comme j'ai exclu les concertos pour flûte, pour hautbois, pour clarinette, pour ne retenir dans cette série d'émissions que les traits d'orchestre de ces instruments avant, comme par exemple dans l'opéra Ferval de Vincent d'Indy. J'évoquais tout à l'heure la commande que Richard Wagner avait passée à Adolphe Sax de nouveaux instruments, les fameux tubas wagnériens qu'on entend dans le ring. Eh bien, en 1897, Vincent d'Indy s'inspire fortement de Richard Wagner pour cet opéra Ferval, dont voici un extrait avec le chœur radio-lyrique de Paris, l'orchestre de la radio-lyrique dirigé par Pierre-Michel Lecomte et un saxophone en cette toute fin du 19e siècle.
Si le serment est violé, si la loi antique est brisée, si le bourg règne sur le monde, le cycle désespéré. Oh.
Je m'effraie. Le serment et la loi ne sont point violés. L'antique religion subsiste tout entière. La race des Lumières n'est pas à son éclat. Ferval, élu des dieux, héros puissant et pur. C'est en toi que Clavanne a mis son espérance. Va, mon fils, va revêtir tes plus brillantes armes et ne parlez au conseil qu'à ma voix.
Janine Capderoux chantait Kaito, Pierre Germain était Arfagard dans cet extrait du premier acte de Ferval de Vincent d'Indy avec le chœur Radio Lyrique de Paris, l'orchestre de la Radio Lyrique dirigé par Pierre-Michel Lecomte, partition de 1897 qui utilise un quatuor de saxophone.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors après tous ces compositeurs français, Berlioz, Ambroise Thomas, Bizet, Delibes, Massenet, Paul Dukas ou encore Vincent Dindy qui ont utilisé le saxophone, on arrive au XXe siècle et bien sûr l'irruption du jazz dont le saxophone va devenir un véritable emblème. En témoigne l'affiche de l'opéra Johnny Spieltauf d'Ernest Krenek avec en 1927 une affiche qui témoigne du côté canaille de ce saxophone qui sera utilisé par exemple par Darius Milhaud dans La création du monde dont voici l'ouverture avec l'orchestre de l'Opéra National de Lyon dirigé par Kent Nagano. L'orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Kent Nagano, dans un extrait de La création du monde de Darius Milhaud, créé au Théâtre des Champs-Élysées en 1923 pour les ballets suédois de Jean Berlin, sur un argument de Blaise Cendrars et des décors de Fernand Léger. Le saxophone traverse l'Europe, le voici maintenant en Hongrie, avec Hari János de Zoltán Kodály. Cette partition évoquant un fort Engel qui revient de la guerre en prétendant avoir capturé Napoléon. Napoléon ridiculisé dans cette partition de 1926 qu'on avait évoquée dans une série sur l'empereur au mois de mars dernier. Une série à retrouver sur francemusique.fr. Hari János, ici avec János Ferencsik à la tête de l'orchestre de l'opéra d'État hongrois et Póka Balázs qui chante un Napoléon tremblant de peur.
Thank you.
Napoléon tremble de peur, chanté par Pocka Balázs. Il était ici accompagné par l'orchestre de l'Opéra d'État hongrois, dirigé par János Ferencsik, avec notamment un saxophone accompagnant ce Hári János de Zoltán Kodály. Voilà un autre personnage haut en couleur, un personnage tellement délirant et bien qu'il n'existe pas. C'est le lieutenant Kijé de Serge Prokofiev. Voilà un film de 1933 d'Alexander Feinzimmer pour lequel Prokofiev a écrit la musique qui va devenir une de ses plus célèbres musiques orchestrales d'après une nouvelle qui dénonçait les absurdités de la bureaucratie. Ce lieutenant Kijé est un personnage n'existant pas qui a été créé à la suite de l'erreur d'un copiste dans une sombre administration. L'administration refusant de reconnaître ses erreurs, eh bien on fait vivre ce personnage. On lui invente même des exploits qui parviennent à l'oreille du tsar. Et lorsque le tsar demande à rencontrer ce héros, le lieutenant Kijé, eh bien on lui dit qu'il est mort. Voilà, un héros dont on fait les funérailles nationales. C'est absolument grotesque et musicalement jubilatoire grâce à Sergueï Prokofiev, avec notamment une romance jouée par l'Orchestre Symphonique de Chicago, dirigée par Claudio Abbado. Et cette partition de 1933 sera reprise dans les années 80 par Sting dans la chanson « Russians ».
Thank you.
La romance du lieutenant Kijé de Sergueï Prokofiev, c'était l'orchestre symphonique de Chicago dirigé par Claudio Abbado. Nous allons rester sur France Musique dans le domaine de la musique russe avec les tableaux d'une exposition que Modeste Moussorgski a composée en 1874 pour piano seul au lendemain de la mort de son ami qui était un grand artiste selon lui, Victor Hartmann. Mais enfin, on n'a pas grand-chose de ce Victor Hartmann. Quelques dessins, quelques aquarelles. Mais c'est un Modeste Moussorgski très affecté qui apprend la mort en 1873 de celui qu'on appelle en russe Gartman. Et il va composer l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, ces tableaux d'une exposition qui seront orchestrés par de nombreux compositeurs, en particulier Maurice Ravel en 1922, et l'un des épisodes de ces tableaux d'exposition, le vieux château, Il Vecchio Castello, sera pour Ravel l'occasion de faire résonner un saxophone, ici celui de l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Woo Chung.
Thank you.
Il Vecchio Castello, le vieux château, tel est le titre de cette aquarelle de Victor Hartmann qui a inspiré à Moussorgski cet extrait des tableaux d'une exposition ainsi orchestré par Maurice Ravel et joué par l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Moon Chung.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et après le Philhar, voici l'ON, voici le National, l'Orchestre National de France, dirigé en 1975 par Leonard Bernstein pour le centenaire de la naissance de Maurice Ravel. Plusieurs grandes festivités étaient proposées cette année-là, et notamment l'enregistrement du Boléro, qu'on va écouter intégralement avec cette nomenclature très particulière, ses cordes, ses cuivres, ses percussions, et parmi les bois, un piccolo, deux flûtes, deux hautbois, l'un jouant du hautbois d'amour, un cor anglais, deux clarinette en si bémol, une clarinette basse, deux bassons, un contrebasson, et puis deux saxophones, un saxophone soprano en si bémol et un saxophone ténor.
Thank you.
L'Orchestre National de France était dirigé par Leonard Bernstein en 1975 dans ce boléro de Maurice Ravel. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission et de cette série d'émissions sur les instruments à vent conclue par le saxophone. Il me fallait encore vous faire entendre au moins une partition célébrissime du XXe siècle. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Paavo Järvi, dans cet extrait de la deuxième suite de jazz de Dmitri Shostakovich. Après cette émission sur le sax dans Arabex, voici Rolasque par Lionel Esparza. Bonjour Lionel.
Bonjour François-Xavier.
Dyslexique.
Je vois ça, mais vous êtes sur les lettres rares en ce moment. On était sur le X aujourd'hui, sur le Y la semaine prochaine.
Exactement, avec la chanteuse Maria Bayo, merveilleuse soprano espagnole à qui nous rendrons hommage.
Merci.
Bon week-end.
Bon week-end
avec
à vous.
Un W.
À réécouter sur francemusique.fr.